Ensemble sur Calade.
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 Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Calade. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Calade dans Ensemble sur Calade, votre rendez-vous quotidien au cours duquel on se tient au courant de l'actualité du Beaujolais. Nous sommes le lundi 18 mai, j'espère que vous allez bien après cette belle matinée ensoleillée et puis ce beau week-end aussi. Il va continuer à faire beau toute la journée, ce sera pareil demain. Pour ce qui est des températures, elles sont actuellement autour de 22 degrés, elles pourraient monter jusqu'à 24 cet après-midi et demain elles seront en légère hausse, 20 degrés dès le matin et des maximales à 25 degrés l'après-midi. Voilà pour la météo. Au programme de notre émission, nous avons rendez-vous avec Sabrina de l'équipe Beaujolab, une équipe de jeunes de la mission locale qui met en place de nombreux projets de solidarité et d'accès à la culture pour les jeunes. On retrouvera Eddy Bernard qui nous proposera un point sport. On rencontrera également Gabriel Caramana, ethnobotaniste au sein de l'association Ampliflore à Amplepuy. On parlera balade nature, plantes sauvages et cuisine. Il sera ensuite 13h, l'heure de vos pages d'information, le journal de RFI suivi du journal local. On retrouvera ensuite notre libraire Bertrand Lamure pour un conseil lecture. Georges Botton sera également au rendez-vous avec sa rubrique Mais la 11e. Et pour terminer l'émission, Julien Dupéré nous parlera de l'Oasis Aglaisée, dont les activités ouvertes au public reprennent dès aujourd'hui, les collectes de dons et la boutique qui ouvre à nouveau. Mais d'abord, eh bien, je vous propose de commencer cette émission en musique, comme d'habitude. Aujourd'hui, on écoute un titre de Cléa Vincent, c'est frais, c'est tropical, ça s'appelle Baïa. Il est 12h13, vous écoutez Radio Calade, l'émission Ensemble sur Calade. À tout de suite.
Je ne te connais pas, Baïa. Tu ne me connais pas, Baïa.
Cléa Vincent sur Calade, c'était un extrait de son album Tropicléa 2 et le morceau s'appelait Baya tout simplement.
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
Et tout de suite, eh bien, il est l'heure de retrouver notre première invitée. C'est Sabrina qui fait partie du conseil des jeunes au sein de la mission locale, le Beaujolais. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va très bien et vous ?
Eh bien, ça va bien, merci. Alors, le Beaujolab, est-ce qu'on peut déjà le présenter ? On vous avait déjà reçu sur notre antenne en décembre dernier, mais on peut peut-être quand même rappeler ce que c'est que le Beaujolab.
Oui, bien sûr. En fait, on est une dizaine de jeunes de la mission locale. On a un groupe qui essaie de faire des projets qui sera...
Il y a différents types de projets que vous mettez
oui,
en
voilà.
place, des interventions scolaires, des groupes de discussion, des tables rondes, voilà. Et ça se fait grâce à la mission locale, on peut dire ça ?
Oui, c'est ça, c'est eux qui ont eu l'idée de créer le conseil consultatif. Et du coup, ils cherchaient des jeunes. Ils en demandaient à beaucoup de jeunes et seulement une 10-15 ont répondu à l'appel. Mmh. Et aujourd'hui, on a encore une 10-15 d'ailleurs. Et on travaille toujours, même pendant le confinement, on a travaillé sur les projets table ronde, harcèlement scolaire, sur la culture aussi un petit peu.
Et ces jeunes, alors comment habituellement, on va dire, avant cette période de confinement où c'est plus compliqué de se rencontrer, même depuis le déconfinement, habituellement, comment vous travaillez ? Vous aviez des temps de réunion, de discussion ?
Oui, c'est ça. Une fois par semaine, tous les jeudis après-midi à 14h. À 13h30, 14h, on se rejoint à la mission locale. En fait, ils nous prêtent une salle. Mmh. Et toute l'après-midi, on fait la réunion. On parle de projets, des avancements, des recherches, ou même s'il y a de nouvelles idées, des améliorations, etc.
Et donc, du coup, maintenant, avec cette période, vous avez réussi à garder le contact, à continuer à être actif ?
Oui, c'est ça, via Discord, en fait. C'est un logiciel un peu comme Skype, et du coup, on a créé un serveur Discord avec les conseillers de la mission locale et les jeunes du CCJ. Et on continue quand même nos réunions une fois par semaine.
C'est un logiciel de visioconférence, un peu, comme vous l'avez dit, comme Skype, Zoom, et ça vous permet de communiquer.
C'est ça.
Et donc, les projets que vous mettez en place, vous nous avez parlé, par exemple, d'un projet en lien avec le harcèlement scolaire. Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, c'est ça. En fait, on aimerait bien passer dans les écoles primaires, collèges, lycées, et sensibiliser les jeunes, mais en ayant des idées créatives, avec des ateliers, des jeux de rôle, des jeux, par exemple, je suis toi, on va dire, se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, et après avoir les avis, dire, imagine, toi tu serais cette personne, comment tu réagirais, etc. J'ai plus que faire participer les jeunes que leur dire, oh non, c'est pas bien, non.
D'accord, pas être dans une démarche juste explicative, mais qu'ils soient acteurs et que ça entraîne des réflexions de leur part.
C'est ça.
Et ces ateliers, vous en étiez arrivé où ? J'imagine que là, actuellement, avec les écoles, ça va être compliqué d'intervenir avant au moins septembre. Mais vous aviez déjà des débuts d'ateliers qui pouvaient se mettre en place
Oui, c'est ça. En fait, on a réfléchi justement au jeu de rôle. Mmh. En fait, on a demandé sur notre page Facebook et page Instagram si des personnes qui avaient déjà vécu ce genre de choses pouvaient justement partager leur témoignage, mais en anonyme. Du coup, on en a récolté 4 ou 5 même. Et du coup, on aimerait bien faire jouer justement les jeunes, faire jouer les témoignages sur ces jeunes, comme si c'était une histoire inventée, alors que c'était des vraies histoires.
Les mettre en situation réelle.
C'est ça, exactement. Et à la fin, leur dire, en fait, ça s'est vraiment passé.
Et ouais, ça peut vite faire réfléchir, de se dire, là, on l'a fait pour de faux, comme une pièce de théâtre, mais ça a existé.
Oui, c'est ça.
Donc ça, c'est un projet d'intervention dans les écoles, des ateliers scolaires, mais vous avez plein d'autres idées. J'ai entendu notamment parler d'une boîte à culture, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, une boîte à livres que vous avez mis à disposition.
Oui, c'est ça. En fait, on voulait faire comme projet ouverture à la culture aux jeunes. Parce qu'il y en a beaucoup, ils n'ont pas forcément accès à la culture. Enfin, ils n'ont pas forcément de moyens pour acheter des livres, DVD, albums, etc. Et du coup, nous, on a eu l'idée de faire une boîte à livres à la mission locale directement. Et comme ça, les jeunes, ils peuvent prendre des livres, même eux-mêmes, mettre des livres qu'ils ont chez eux, qu'ils n'utilisent plus, etc. Et on peut mettre aussi des DVD, comme je disais, ou des albums de musique, des choses comme ça, pour faire partager la culture à d'autres, en fait.
Et ça fonctionne bien, vous avez été témoin d'échanges, vous jetez un coup d'œil de temps en temps dans la boîte pour voir si ça bouge.
Oui, ça bouge très bien. Enfin, avant le confinement, ça bougeait très bien. Il y a eu beaucoup de romans, des choses comme ça qui sont partis, et d'autres qui sont venus. Il y a des jeunes qui ont pris une dizaine de livres. Enfin.
D'accord, bah ça fonctionne bien. Et puis il y a ce projet-là d'accès à la culture. Et puis il me semble que vous mettez aussi en place des tables rondes. Alors maintenant, c'est devenu des tables rondes virtuelles.
C'est ça. En fait, les tables rondes, c'est on a un sujet en particulier. Et en fait, il y a un modérateur et un co-modérateur. Le modérateur pose des questions et le co-modérateur est là justement pour qu'il n'y ait pas trop de collision, on va dire, entre guillemets.
Distribuer la parole, peut-être limiter les interventions et éviter que tout le monde se coupe la parole.
Oui, c'est ça. Et du coup, le modérateur est là justement en tant que ligne conductrice de la table ronde. Pose les questions, chacun répond à leur tour. Et après, on a aussi l'avis sur le sujet, ou même si d'autres personnes ont des questions, etc. En général, les tables rondes durent en moyenne 2 heures.
2 heures de débat ?
Oui.
Et il faut les avoir préparés, alors, ces débats. Si on arrive pour une discussion de 2 heures, il faut chercher des arguments avant.
Ah oui. En fait, le modérateur est désigné une semaine avant. Et du coup, il prépare ses questions.
D'accord.
Et après, ça peut durer 1 heure et demie. Là, par exemple, la dernière, elle a duré 1 heure et demie. Et celle de la semaine dernière, elle a duré 2 heures. Celle de la semaine d'avant, elle a duré 2 heures et demie.
Et vous abordez quoi justement comme sujet, j'allais vous demander.
Pour l'instant, on a fait 4 tables rondes. La première, c'était intérêts et difficultés des jeunes à Villefranche et dans le Beaujolais. La deuxième, c'était l'art et la philosophie. La troisième, c'est l'égalité homme-femme et le féminisme. Et la quatrième, c'était les animaux domestiques.
D'accord, des sujets variés. Et en fait, c'est des jeunes qui participent au débat, c'est pas des experts. Et l'idée, c'est de confronter ces arguments, d'entendre l'avis d'autres personnes, de s'entraîner au débat. C'est, quel est le projet derrière ces tables rondes ?
Oui, c'est ça. En fait, déjà pour commencer, nous, c'était les membres de la CCJ qui participent. Mais là, du coup, c'est ouvert depuis la semaine dernière. Et du coup, c'était pour avoir justement l'avis des jeunes autres que les personnes qui ont de l'expérience, entre guillemets, adultes. Et du coup, on a vraiment beaucoup d'avis divers, de plein de choses différentes.
Et
je pense que ça dure 2 heures.
Et oui, donc il y a des jeunes extérieurs au conseil des jeunes, au Beaujolab qui interviennent. Ça veut dire que vos tables rondes sont ouvertes. Comment est-ce qu'on fait pour se tenir au courant des prochaines tables rondes et savoir si on peut intervenir ou pas ?
En fait, on a les réseaux sociaux, on a Facebook et Instagram. Notre Facebook, c'est Beaujolab. Et Instagram, c'est pareil, CCJ Beaujolab. Sinon aussi, on partage via la page Facebook et la page Instagram de la mission locale de Villefranche. Eux aussi, ils partagent nos informations.
Ils relaient vos infos.
Exactement.
Très bien. Et si des jeunes veulent participer à ce conseil constitutionnel, c'est ouvert et il suffit de vous contacter ?
C'est ça. Ils envoient un petit message pour dire qu'ils sont intéressés. Et nous, on leur donne le lien, par exemple, de Discord s'ils veulent discuter à l'oral. voilà, des choses comme ça.
Et alors, vous avez abordé des thèmes comme le harcèlement scolaire, l'accès à la culture, et puis ces tables rondes et ces moments de débat. Ça fait partie des valeurs que vous essayez de porter à travers ce Conseil constitutionnel ?
Oui, c'est ça. En fait, on essaie d'ouvrir la parole, de mettre en avant la parole des jeunes, qui n'est pas forcément très bien entendue tout le temps. Mmh. Et du coup, on fait beaucoup. Enfin, on essaye de faire des projets qui mettent en avant la jeunesse dans le Beaujolais.
Très bien. Ce Beaujolais qu'on retrouve, qui agit au sein de la mission locale, et on vous retrouve donc sur les réseaux sociaux que vous avez cités. Les projets futurs, là, j'imagine que vous avez hâte de pouvoir vous retrouver en vrai. Depuis le 11 mai, vous avez pu éventuellement faire une réunion qui ne soit pas virtuelle ?
Non, c'était que virtuel.
Ouais. Et vous avez des réunions de prévues, vous allez essayer de vous retrouver en faisant bien sûr, j'imagine, attention aux règles d'hygiène sanitaire, mais est-ce que vous avez déjà prévu de futures réunions ?
Oui, on attend que la mission locale réouvre. Mmh. Apparemment, ce serait le 2 juin, mais c'est pas sûr. Et voilà. Sinon, non.
Très bien. Et puis, on peut faire, avant de se dire au revoir, peut-être un appel aux collèges, lycées et écoles qui éventuellement nous entendent pour ce projet d'atelier sur le harcèlement scolaire, un atelier ludique que vous mettez en place.
Oui, c'est ça. Si des établissements scolaires nous écoutent, on est très, très intéressés pour participer, venir expliquer le sujet tout en restant ludique.
Ouais, que ce soit amusant avant tout, ce qui n'est pas forcément facile avec un tel sujet. Merci beaucoup Sabrina de nous avoir parlé du Beaujolab.
Merci à vous.
Et bonne continuation et à bientôt, on prendra des nouvelles de vous.
Très bien, pas de soucis.
Allez, bonne fin de journée.
Merci à vous aussi.
Ensemble sur Calais.
Ensemble sur Calais.
Ensemble sur
Calade.
Allez, on va prendre des nouvelles de l'actualité sportive dans quelques instants avec notre intervenant Eddy Bernard qui nous tiendra au courant des clubs du Beaujolais. La semaine dernière, on parlait du FCVB. Aujourd'hui, on parlera peut-être basket, handball ou rugby. Mais en attendant, je vous propose une petite pause musicale. Voici Foster the People avec Pumped Up Kicks. We'll be right back. Pumped Up Kicks de Foster the People, un morceau de 2010, mais c'est toujours aussi agréable de l'écouter.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Et allez, c'est lundi, aujourd'hui on prend des nouvelles de l'actualité sportive qui est un petit peu chamboulée avec cette période, mais il se passe quand même beaucoup de choses et pour nous tenir au courant, on peut compter sur Eddy Bernard. Bonjour Eddy, comment vas-tu?
Oui, bonjour Mathieu. Oui, on se tient au courant et l'actualité sportive, eh bien, elle reprend petit à petit, elle reprend vie en effet, hein. ça bouge.
Alors la semaine dernière on a beaucoup parlé de notre club de foot local, le FCVB, de nos Tigres caladois. De quel sport vas-tu nous parler aujourd'hui?
Alors en effet, on avait fait un large tour d'horizon de l'actualité du Football Club Villefranche-Beaujolais. Depuis la semaine dernière d'ailleurs, rien de très nouveau à ajouter, donc on va pouvoir se concentrer aujourd'hui sur l'actualité d'un autre des sports majeurs qui nous intéresse. Il s'agit de notre club de rugby, le CS Villefranche. Parce que l'actualité s'est accélérée ces dernières semaines et surtout ces derniers jours pour notre représentant qui, rappelons-le, avait virtuellement sauvé sa peau en Fédéral 1 après y être accédé, rappelons-le, pour la saison 2019-2020 pour, ma foi, ce très très bon comportement de notre club de rugby et dont la saison a été écourtée, hélas, on le sait, et la Fédération française de rugby donc ayant été contrainte de geler les positions alors qu'il restait encore de nombreux matchs retour à disputer dans l'État. Alors, le CS Villefranche Rugby était potentiellement donc maintenu en Fédéral 1 puisqu'il avait réussi à garder derrière lui deux autres équipes qui donc étaient de fait reléguées en Fédéral 2 à ce stade de la saison. Or, à la demande des dirigeants du CS Villefranche, ça je vous l'avais déjà indiqué, eh bien c'est en Fédéral 2 que retournera finalement le CSV pour des raisons, des contraintes purement budgétaires. Le président Miguet, rappelons-le, ayant à peu près provisionné un budget pour la saison prochaine qui pourrait difficilement dépasser les 500 000 euros, alors qu'on était à plus de 900 000 pour pouvoir figurer correctement, convenablement en Fédéral 1. Donc c'est la sagesse qu'il a emporté dans la décision des dirigeants qui préfèrent rester prudents et donc garantir eh bien, un bon comportement dans le championnat Fédéral 2. Et, alors, aux dernières nouvelles, les mouvements donc, pour la saison prochaine ont débuté. C'est vrai que côté joueur, il y a pour l'instant peu de mouvements et ça veut dire que cette équipe du CSV sera certainement très compétitive en Fédéral 2 la saison prochaine. Mais enfin, on n'est pas à l'abri encore évidemment de certains départs qui pourraient, des joueurs qui pourraient conserver l'envie de continuer à évoluer au niveau 1, évidemment. Enfin, pour l'instant, peu de mouvement, hormis, et ça c'est important, eh bien, il arrête sa carrière, Sébastien Bouillot, le buteur, et l'une des figures emblématiques du CSV. Hein. Eh bien, Sébastien Bouillot, non seulement il arrête sa carrière de joueur et de buteur de l'équipe, mais il va devenir l'entraîneur principal, donc le duo Bertrand-Nogier et son assistant sont remplacés. Ils vont rester, Laurent Paki-Ivataou vont rester tous les deux dans l'organigramme du club, mais avec des fonctions un peu différentes, avec un peu plus de recul et certainement axé également vers la formation. Mais donc Sébastien Bouillot, eh bien, changera sa tenue de joueur pour celle du costume d'entraîneur.
D'accord,
à partir de la saison prochaine. Et il sera avec Manu Stival qui formera également donc, cette doublette d'entraîneur pour le CSV. C'est un changement important, mais dans la continuité et dans les valeurs en tout cas du CSV Franche Rugby. Tu l'as compris Mathieu, avec des habitués de la maison qui vont pouvoir s'appuyer essentiellement sur la formation caladoise, bien sûr, pour continuer eh bien de bien figurer dans le championnat Fédéral 2. Voilà ce que je peux te dire. Alors, si on a encore un petit instant.
Oui, bien sûr.
Se préfigure la saison 2020-2021 pour le CS Villefranche. Elle sera donc dans une poule de Fédéral 2 dans laquelle il y aura évidemment de vieilles connaissances parce qu'on va retrouver la plupart des formations avec lesquelles le CSV avait l'habitude de ferrailler ces dernières années, les formations régionales qui seront encore bien présentes. Alors, si tu suis un peu le rugby, eh bien, tu ne seras pas surpris de retrouver notamment nos voisins de Rieux, évidemment, qui seront un adversaire encore vraiment compétitif aussi. Et il y aura le retour de véritables derbies hein, face donc à cette équipe de Rieux. Il y aura également les vieux habitués, Saint-Priest et Mézieux, quatre équipes proches de la région lyonnaise qui seront donc ensemble dans la même poule en Fédéral 2 la saison prochaine. À ce sujet, l'information primordiale de ces derniers jours, eh bien, c'est l'avancée d'un très très beau projet de fusion entre l'ASVEL Rugby qui, comme le CSV, évoluait jusqu'à présent en Fédéral 1. Et le projet ASVEL Rugby propose une belle alternative au club de top 14 du Loup Rugby, puisqu'il va fusionner justement avec le club de Rieux, qui sera la saison prochaine un nouveau adversaire du CSV. Ça veut dire que cette fusion, elle va créer une belle entité qui va s'appeler le Stade Métropolitain, qui promet d'être une belle écurie du rugby amateur, en tout cas semi-amateur de la région, et qui conservera ses deux équipes, c'est-à-dire l'ASVEL Rugby restera en Fédéral 1, et Rieux, donc, en Fédéral 2, pour l'instant. Alors, on verra ce qu'il adviendra de ce projet, qui a certainement pour ambition d'évoluer de manière régulière au plus haut niveau et d'être compétitif en Fédéral 1. L'équipe de Fédéral 2, malgré tout, la saison prochaine, s'annonce tout de même comme étant assez compétitive, bien que quelques joueurs qui étaient parmi les plus en vue de l'équipe, évidemment, de Rieux Fédéral 2, vont aller renforcer l'équipe de Fédéral 1, ASVEL Rugby. Donc, voilà, un projet important dans la région pour les amateurs de rugby qui va créer une alternative entre le Loup Rugby, hein, c'est vraiment l'élite internationale avec le top 14 et la Coupe d'Europe, et il y aura donc en région lyonnaise un deuxième club d'un niveau évidemment assez élevé avec cette double inscription Fédéral 1, Fédéral 2, donc pour ASVEL Rugby et Rieux qui deviendront désormais une seule et unique entité. On aura fort à faire, nous, au CSV, évidemment, face à des gros poids lourds, hein, si tu veux. On permet l'expression. Oui. Et oui. En tout cas, ça promet une saison 2020-2021 du côté du complexe de l'Escale particulièrement intéressante, parce que notre équipe, elle devrait très certainement jouer les premiers rôles hein, en Fédéral 2, et pourquoi pas rêver à nouveau à retrouver l'élite amateur de la Fédéral 1. Je pense que ce sera en tout cas une des ambitions des entraîneurs et du staff autour du président Millet du CS Villefranche Rugby. Donc, même s'ils évolueront en Fédéral 2 la saison prochaine, pardon, On aura, Mathieu, un grand intérêt à aller le dimanche après-midi, puisque le rythme des matchs va redevenir celui qu'il est en Fédéral 2. Donc le dimanche après-midi, nous aurons certainement, donc je le disais, beaucoup d'intérêt et d'attrait à nous rendre au complexe de l'Escale. Voilà pour l'actualité rugby. Est-ce que tu m'autorises encore un tout petit mot sur l'actualité sportive, ou est-ce qu'on a plus le temps?
Allez, encore une ou deux minutes sur l'actualité sportive.
Bon, écoute, ça, malheureusement, en fait, je vais faire un petit peu teasing là. Tu sais que c'est pas dans mes habitudes, mais je suis un petit peu obligé. Nous parlerons lors des prochaines semaines, évidemment, de l'actualité sportive et des autres disciplines sportives qui nous concernent dans la région. Mais je peux te dire d'ores et déjà que le prochain entraîneur de Beaujolais Basket, notre fer de lance hein, dans le championnat amateur national de basket, Beaujolais Basket qui repart donc contraint et forcé en National 2 compte tenu du fait que l'accession en National 1 n'a pas été possible, eh bien repartira, on le sait, avec une équipe compétitive. Je peux te dire qu'il y a depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, un nouveau départ qui est celui de Thibaut Alexis, un ailier fort qui était vraiment un élément majeur de l'équipe de cette année, mais il sera remplacé par un autre joueur. C'est pas signé, alors je ne peux pas en parler, mais je peux te dire que ça se précise et qu'on devrait entendre dans quelques jours la signature d'un joueur de très très bon niveau pour suppléer au départ de Thibaut Alexis. Et puis quant au nom du nouveau coach de Beaujolais Basket, ça se précise également. Actuellement, il y a deux candidatures dure, resserrée, si tu veux, hein, dans le choix des dirigeants de Beaujolais Basket, qui hésitent encore à prendre leur décision, mais qui la donneront très certainement dans les prochains jours. Alors, d'un côté, un entraîneur qu'on va qualifier d'une figure du basket, c'est un entraîneur très expérimenté au plus haut niveau. Et de l'autre côté, un actuel pensionnaire de National 2, dans une équipe concurrente à celle de Beaujolais Basket, mais qui a été très, très compétitive également cette saison. Je vous promets que dès que ce sera officiel, je vous en dirai plus sur ces mouvements du côté de Beaujolais Basket. Voilà pour l'actualité sportive, Mathieu.
Très bien, merci Eddy. Bon, le paysage sportif de la saison prochaine se dessine et est en mouvement permanent, j'ai l'impression que ce soit...
Absolument, on est en pleine période de transfert et de mouvement et je vous tiendrai au courant chaque fois que, évidemment, j'aurai pu récolter des informations pour vous qui nous écoutez sur Calad. À très bientôt, Mathieu.
Et ben, on compte sur toi. À bientôt, Eddy. Merci.
Ensemble sur Calad, c'est évidemment sur Calad.
Allez, dans quelques instants, on va parler de fleurs, on va parler de plantes sauvages. Mais d'abord, on écoute une musique qui nous parle de fleurs. Déjà, c'est Minnie Riperton sur Calad. C'était Minnie Riperton sur Calad avec son titre Les fleurs. Et les fleurs, on va en parler, des plantes en général même, avec notre invité Gabrielle Caramana. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bien, très bien. Avec le soleil et puis voilà, la promesse de pouvoir retourner en balade, de pouvoir emmener des gens à nouveau.
Et oui, parce que c'est votre activité. Alors, vous êtes ethnobotaniste au sein de l'association Ampliflore. Alors, ethnobotaniste, en quoi ça consiste ?
Alors, l'ethnobotanique, en fait, c'est une science qui est une petite branche de naturaliste, en fait, et qui allie l'étude des sciences humaines et l'étude de la botanique, en fait. Et en gros, c'est le lien entre l'humain et son environnement végétal, pour faire court.
et l'association Ampliflore, pardon, en quelques mots, si on devrait la présenter.
Alors, l'association Ampliflore, c'est une association loi 1901 qui existe depuis début 2014. Il y a une vingtaine d'adhérents. Mmh. Et le but de l'association, en fait, c'est de faire découvrir la nature, les plantes sauvages. Voilà, il y a une vingtaine d'adhérents. Et ça, il y a deux parties dans cette association. Il y a une partie donc avec des personnes qui sont inscrites à l'année. Qui viennent régulièrement, toutes les semaines ou tous les mois. Et puis, l'association est ouverte à d'autres participants à travers des sorties terrain, des stages, des formations. Hein. Ça peut être en journée, en week-end ou en semaine. Voilà, et ça s'adresse à tout public.
Et vous proposez donc des balades dans la nature pour aller découvrir les plantes du Beaujolais, les plantes qu'il y a autour de nous. Comment ça se passe ?
Alors, en fait, oui, l'idée, c'est de se rapprocher et de se reconnecter à notre environnement végétal de voir sur le terrain, en allant se balader, la richesse qu'on a vraiment à portée de main. Dans le Beaujolais, il y a plein de chemins, il y a des parcs, il y a le lac, enfin, il y a plein de zones, où la nature peut encore s'exprimer un petit peu. Et dans ces endroits, en fait, on va découvrir que cette masse verte, il y a plein d'individus différents et qu'on va pouvoir les utiliser pour se nourrir, hein, parce que les plantes sauvages sont des aliments, en fait, quand on les sait les reconnaître, qui nous apportent beaucoup d'énergie. Et puis, peut-être, ceux qui connaissent se soigner avec.
Donc oui, ça peut servir les plantes de. On peut s'en servir pour l'alimentation et puis pour les soins également. Ça peut être quand même effrayant de se dire d'aller ramasser des plantes. Est-ce qu'on va pas tomber sur quelque chose de dangereux ?
Oui, c'est vrai que je dirais depuis des décennies, on a oublié ces connaissances et on n'en connaît plus les dangers. Donc c'est vrai qu'il suffit d'en apprendre les dangers, un petit peu à la manière dont on apprend à jardiner. En fait, quand on commence à jardiner, dans un jardin, il y a aussi des dangers. Mmh. Il y a des plantes cultivées qu'on ne peut pas manger, d'autres qu'on peut manger. Voilà, tout ça, on l'apprend en jardinant. Mais c'est un petit peu la même chose quand on va dans la nature, sur les chemins. Eh bien, bien sûr, il y a une grande diversité, mais petit à petit, on apprend. Et puis, c'est vrai que dans mes cours, je donne les détails qui ne trompent pas. Ouais. Le petit détail d'une plante pour la reconnaître, pour ne pas la confondre avec, une cousine qui serait dangereuse. Donc, voilà, toutes ces choses-là qu'on apprend sur le terrain.
Et puis, j'ai fait un tour sur votre site internet ce matin. J'ai vu qu'on avait environ 7000 plantes sauvages différentes autour de chez nous. La partie qui est dangereuse, je crois que c'est une faible partie, c'est ça ?
Oui, c'est une faible partie. Hein. Je parle uniquement des plantes sauvages. Hein. Je ne parle pas de la partie horticole cultivée, les variétés cultivées, tout ça. Uniquement notre partie qui pousse spontanément. Il y a entre 100 et 150 espèces qui seraient dangereuses. Donc vous voyez, c'est presque plus facile d'apprendre celles qui sont dangereuses que d'apprendre celles que l'on peut utiliser. Donc, alors c'est vrai que sur ces 6-7 000, ça ne va pas être toutes des plantes comestibles ou que l'on peut utiliser, mais je dirais qu'il y en a bien peut-être plus de 1000 qui peuvent être comestibles.
Donc ça peut faire énormément de recettes. J'imagine qu'il faut avoir, il faut déjà savoir les cueillir. Je pense qu'il y a des techniques, peut-être pas tout ramasser quand on trouve des plantes. Et puis ensuite, il faut savoir les cuisiner aussi.
Oui, bien sûr. Bah, c'est là que j'interviens. Ça fait partie de mon travail, de ma passion. Alors c'est vrai que moi, je me suis formée hein, de nombreuses années. Je suis tombée dedans en 2003 à peu près. J'ai fait quelques années de formation et puis on apprend de jour en jour. Mais c'est vrai qu'il y a, une telle richesse, on peut faire tellement de recettes, on a tellement à disposition des goûts différents. Donc il suffit sur le terrain, en fait c'est beaucoup par la pratique. Alors bien sûr qu'on a des livres, ce qu'on appelle des flores botaniques, où on a toutes les précisions détaillées, mais qui s'adressent plus, je dirais, à des professionnels, à des scientifiques. Mais pour le tout public, moi, je vais m'appliquer à montrer des détails pertinents. La personnalité de chaque plante, en fait, si vous voulez. Comme quand on reconnaît un individu, on le reconnaît par rapport à sa façon de se tenir, sa corpulence ou sa hauteur, etc. Donc, c'est tous ces détails-là que je vais donner. Et puis sur le terrain aussi, on va utiliser tous nos sens, l'odorat, le toucher, le goût. Voilà, on va regarder la pilosité d'une plante, on va regarder bien sûr sa couleur, son odeur, toutes ces choses-là.
Et c'est sorti, ça se passe au cours de stages que vous proposez à la journée, au week-end. Comment ça se passe pour le public ?
Alors, pour le public, alors soit on peut s'inscrire, devenir adhérent de l'association avec une petite adhésion annuelle et on a accès à des journées terrain, c'est-à-dire une fois par mois, un dimanche par mois, si on est adhérent, on peut participer à des sorties où on va explorer chaque fois la nature à un endroit différent. Donc on part pour la journée, on part vers 9h du matin, on revient vers 16h. Donc ça, c'est une première chose. On peut s'inscrire aussi à travers la MJC dans le pays à des séances d'une heure et demie tous les 15 jours. Et là, pareil, on va sur le terrain et on découvre chaque fois. Ça nous permet tout ça de voir chaque saison, les plantes en toute saison, en fait, de voir évoluer et de voir ce qu'il y a à chaque saison. Parce que suivant les saisons, certaines plantes disparaissent et puis on en a des nouvelles. Et ensuite, on peut à la journée venir cueillir, cuisiner, faire soi-même, en fait, pratiquer, en fait, pour mieux mémoriser. Donc là, on va avoir peut-être une dizaine de plantes en une journée, on va les cueillir, on va cuisiner, on va faire des apéritifs, des plats complets, des desserts. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et ça peut aller jusqu'à des semaines complètes de formation.
D'accord, et j'imagine qu'à la sortie de la semaine complète de formation, on doit avoir appris énormément de choses et avoir vu plein de plantes. Alors, avec la période qu'on vient de vivre, là, de confinement, comment ça vous a impacté, vous, personnellement ?
Eh ben oui, moi personnellement, c'est vrai qu'au niveau de mon activité, ben, tout était stoppé, puisque c'est vrai que pas le droit de se regrouper. Donc, moi, j'accueille les gens par groupe d'environ 15 personnes. Là, tout était stoppé. Alors maintenant, à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir reprendre et s'adapter aussi à ces conditions-là. Bon, après, si je parle d'un point de vue personnel, moi, ça ne m'a pas empêché d'aller sur le terrain et de continuer à cueillir. Donc, sans doute un peu plus égoïstement et pour moi-même. Mais voilà, la nature était toujours là.
Et justement, on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup entendre dire « la nature reprend ses droits », etc. Comment ça... Vous, est-ce que vous avez été témoin que les chemins étaient plus tranquilles je ne sais pas. Comment la nature a réagi à cette période?
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que j'ai jamais connu ça ici, là, dans mon département. Déjà, le silence venant des outils, des engins motorisés et la possibilité d'entendre pleinement les oiseaux, d'entendre le bruit des feuilles, le bruit des arbres. Et puis dans les chemins, de voir pousser dans les talus les plantes et de voir les talus se colorer de plein de fleurs, ce que l'on ne voit pas souvent puisque c'est très entretenu. Donc quand on entretient, finalement, on n'a plus les tiges vertes et on ne voit plus toutes ces couleurs et toutes les possibilités que nous apporte la nature. Donc vraiment, là, c'était positif.
D'accord, donc vous avez trouvé du positif. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. La reprise, alors, pour vous, vous nous avez dit que vous allez peut-être pouvoir reprendre les ateliers prochainement ?
Oui, alors je vais reprendre de façon adaptée, c'est-à-dire que je vais limiter l'accès à 9 personnes. Hein, avec moi, ça fera 10 pour ne pas dirais, être plus de 10 en regroupement. On va être beaucoup plus sur le terrain. On ne pourra pas, bien sûr, cuisiner encore pour le moment. On attendra que le gouvernement nous donne l'autorisation. Mais ça ne nous empêchera pas de cueillir. Donc chacun pourra amener ses sacs de cueillette. L'apprentissage sur le terrain se fera quand même. Et les gens pourront repartir avec leurs recettes et toutes les consignes pour pouvoir cuisiner tranquillement chez eux, sans risque de contamination. Donc voilà un petit peu l'adaptation. Après, c'est vrai que pour l'avenir, j'envisage peut-être aussi de donner des cours en ligne. C'est vrai que c'était un petit peu la leçon pendant ce confinement.
Ça se fait beaucoup, oui. Et j'imagine que vous devez intervenir souvent dans les écoles. Pour l'instant, ça ne va pas être possible avant au moins l'année prochaine.
Oui. Là, c'est vrai que tous les contrats que j'avais avec des écoles, notamment le primaire, maternelle et primaire, eh bien, tout ça, ça a été annulé et éventuellement reporté à la rentrée prochaine, parce que même si les élèves reprennent un petit peu les cours maintenant, ils ont d'autres priorités que de partir dehors explorer la nature.
D'aller faire des... Donc,
voilà, donc pareil pour Ampliflore, c'est une association qui travaille avec plein de partenaires, avec plein d'autres associations, et puis tous les contrats qui avaient été faits avec ces partenaires, ont tous été annulés, bien sûr.
Où est-ce qu'on vous retrouve? Il nous reste une toute petite minute. Où est-ce qu'on retrouve toutes les informations sur votre site internet, sur les réseaux sociaux?
Alors oui, vous pouvez retrouver sur le réseau Facebook, sur Instagram. De temps en temps, je poste des choses, principalement sur le site internet, sur le site internet Ampliflore plantes sauvages au pluriel .fr. Vous avez le calendrier, vous avez tous les stages, les possibilités d'inscription. Voilà, et autrement, en m'appelant sur le mobile. Alors, je ne sais pas si je peux le donner à l'antenne.
Ben, si vous voulez.
Le 06 52 04 97 67.
Voilà.
Ça me ferait un plaisir de renseigner tout le monde.
On a toutes les informations pour vous retrouver. Merci beaucoup, Gabrielle Caramana, de nous avoir partagé votre expérience et votre actualité. On vous souhaite bon courage et à bientôt.
Merci, c'était un plaisir.
Allez,
bientôt.
Au revoir. C'est l'heure tout de suite du journal de RFI sur Calade. Il est 13h.
Ensemble sur Calade.
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 Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Calade.
Et nous voilà de retour dans Ensemble sur Calade, ravi de vous retrouver en ce beau lundi ensoleillé. Nous avons rendez-vous dans cette seconde partie d'émission avec Georges Botton pour sa rubrique Mais la 11e. Nous prendrons également des nouvelles de l'Oasis à Glaizé, le centre d'hébergement pour personnes en difficulté qui vit grâce à leurs activités agricoles, mais aussi et surtout grâce à des dons et à la revente de ces dons. Ils reprennent leurs activités aujourd'hui. Julien Dupéré nous en parlera dans quelques instants. Mais avant, dans 2-3 minutes, on va retrouver Bertrand Lamure de la librairie Des Marais pour son conseil lecture hebdomadaire. Je vous propose juste avant de le retrouver une petite pause musicale. Voici Voyou avec Les Humains sur Calade.
Planète. T'as mis le pied dans des îles où t'étais analphabète. T'en as vu passer des styles de filles et de garçons. Et t'en as croisé des bribes de vie et d'horizon. Mais un beau voyage, c'est la prison. De toutes parts, des grands, des tout petits, des foules de visages et de vies, choisi. Tu zig, tu zagues au milieu des vagues d'humains de maison. Tu traînes ta trogne au gré des horaires et des saisons. Après quatre folles, c'est pas de bol. Chez elle, c'est la nuit, c'est d'un ennui. T'es seul au bout du planisphère et seul au bout du filet de ta vie. Tous ces beaux voyages, c'est la prison. Quand t'as quelqu'un qui t'aime à la maison. Et y'a des humains de toutes parts, des grands, des tout petits. Des foules de visages et de vies qui s'activent jour et nuit. Ces humains de toutes parts qui sont passés devant tes yeux, qui t'ont parlé de et de leur vie, c'est elle que t'as choisi.
Voyou sur Calade avec son titre Les Humains. Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade. Et il est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec Bertrand Lamure de la librairie des Marais qui nous propose chaque semaine un conseil lecture. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et comment vas-tu aujourd'hui ?
Écoute, un lundi au soleil.
Et oui, on en verra finalement, il avait tort Claude François.
Voilà. Donc, non, tout va très bien. Et justement, pour cette petite chronique hebdomadaire, je me suis dit que les personnes qui peuvent, dans une chaise longue, dans un pré, prendre un bon polar. Parce qu'on sait comment le polar peut être très addictif au point qu'on n'a plus envie de voir personne, parce qu'il faut absolument qu'on sache ce qui va se passer. Et je trouve que la semaine et puis surtout le week-end qui de l'Ascension qui s'annonce, à mon avis, serait plutôt pas mal pour lire un bon polar.
On va avoir le temps pour se poser justement dans son transat si le soleil est là.
Tout à fait. Alors, les polars, il y en a de toutes les sortes. Hein. Il y en a qui font très très mal et il y en a qui sont plutôt sympatoches. Et, alors, je voulais commencer en fait avec des polars américains. Je reconnais que moi j'ai pas trop l'habitude d'en lire. Et puis confinement oblige, je me suis mis un peu au polar américain ou remis. Par exemple, là en ce moment je suis et c'est extrêmement compliqué d'aller à la librairie alors que j'ai un énorme polar à finir, mais bon. Soyons consciencieux. C'est La Sentence de John Grisham. Alors, peut-être beaucoup d'entre vous connaissent John Grisham. Hein, c'est l'un des grands maîtres du polar américain. Et dans celui-ci, donc, il vient de sortir à La Sentence. Ça se passe aux États-Unis, dans le Mississippi, en 1947. Et c'est l'histoire d'un homme qui tue de sang-froid le pasteur de son comté, de sa petite ville, alors qu'il n'est pas fou, alors qu'ils se connaissent très bien. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Sachant que le meurtrier n'est pas du tout bavard. Donc c'est assez captivant, assez prenant, et nous aussi on lui pose beaucoup beaucoup de questions. Et du coup, dans cette veine du roman américain, ils sont très doués, les Américains, pour le polar, parce qu'ils savent faire, ils ont une technique assez redoutable pour nous captiver. Et puis après, on voit défiler les heures de la nuit, on se dit « Ah, mais je travaille demain matin !» Et vous en avez un autre qui est Michael Connelly. Michael Connelly qui, lui, est plus du côté de Los Angeles. Donc par exemple, il vient de sortir Nuit sombre et sacrée, où on retrouve son policier récurrent qui est Horst et qui déambule surtout dans la nuit de Los Angeles, qui en fait une ville à la fois sympathique et assez horrible. Et là pareil, du coup c'est pareil, assez captivant, on est avec lui, on déambule dans les bas-fonds de Los Angeles, très très bien vu. Et puis, pour ceux qui sont un peu hostiles au polar américain, bah, il faut quand même savoir que les Français se débrouillent pas mal en polar. Et alors, bon, vous en avez des classiques. Hein, par exemple, cette semaine sort le nouveau Bernard Minier avec La Vallée. Donc, Bernard Minier a ses adeptes inconditionnels où les gens réservent des semaines à l'avance le livre. Et puis vous avez d'autres auteurs comme par exemple Fred Vargas. Alors moi pour le coup je suis un inconditionnel de Fred Vargas, de son commissaire Adamsberg, et voilà, on quête toujours, on est toujours à l'affût du prochain Vargas. J'ai un peu peur qu'il n'y ait rien pour 2020. Et pareil, c'est toujours très addictif. Et puis Fred Vargas, c'est aussi une historienne, donc c'est quelqu'un qui va souvent puiser dans les bas-fonds de l'histoire. Voilà, il y a véritablement une profondeur dans ses romans. Je cite aussi par exemple Norek, et Norek lui c'est un policier à la base, il était dans le 93 et la plupart de ses polars se situent dans le 93. Et donc par exemple son dernier Surface autour d'une jeune flic qui malheureusement elle a un peu été amochée lors d'une sortie et elle se retrouve au fin fond de l'Aveyron. Et ben même au fin fond de l'Aveyron, elle va pouvoir travailler tout à fait bien. Et voilà. Et alors après il y a toute une partie polar qu'on connaît un peu moins bien, donc moi j'avoue je suis fan parce que j'aime beaucoup l'histoire, qu'est le roman historique. Et c'est vrai que dans le roman historique, on va avoir plein de choses. Alors, je vais pas sortir toute la liste, mais je trouve que c'est parfois assez intéressant d'avoir j'en ai lu un il y a pas très longtemps autour des mandarins chinois au 8e siècle. Alors en fait, c'est assez passionnant parce que si l'auteur s'est bien documenté, on part avec lui dans cette Chine du 8e siècle. Voilà, c'est assez chouette.
On en apprend la grande histoire grâce à une.
Voilà, on apprend l'histoire, on apprend un lieu, on apprend une ville. Mmh. C'est vrai que le polar, ce n'est pas seulement une intrigue, c'est aussi toute une ambiance, toute une période. Le polar peut être addictif et pas seulement pour l'intrigue.
Bon, et pour ceux qui sont en manque de polar en ce moment, et ben on a eu 4 belles références. Alors pour le polar américain, il y avait John Grishman et Michael Connelly.
John Grishman avec La Sentence. Il y avait Michael Connelly avec Nuit sombre et sacrée. Du Norek, du Vargas, Minier parce qu'il sort cette semaine. Il y en a. Et évidemment, il y en a beaucoup, hein. Mais après, les polars, c'est toujours un petit peu, chacun a ses favoris, ses chouchous, et c'est parfois un peu dur de faire changer des personnes en disant, tiens, allez voir de ce côté-là, mais
je ne lis que cet auteur-là, c'est le mien.
Mais voilà, c'est un petit peu ça. Mais voilà, c'est vrai que quand on aime le polar, il y a vraiment de très, 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 très bonne chose.
Très bien, et bien merci Bertrand pour ce conseil de lecture. À la semaine prochaine.
À bientôt, avec plaisir.
Et en attendant, amis lecteurs, et bien à vos polars et à vos transats. On va retrouver Georges Botton dans quelques minutes. Je vous propose d'écouter MPL sur Quelle aide ma pauvre Lucette.
Depuis son coup de pied à la lune sous les falaises de craie, on cherche encore un morceau dans les montagnes de galets. Et ce soir-là, quand l'homme a vu voler cette ombre au bout du champ, des traces tournées autour d'elle, quelqu'un l'a poussée en avant. Elle disait, même si tu sais pas danser, on pourrait tourner un peu. Si tu marches sur mes pieds, je disparais sous tes yeux. We'll be right back. n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé là-haut. On nous a pas dit, elle s'est évanouie, c'est tout, on en sait déjà trop, nous. On était loin, nous, on était à l'autre bout, et on venait pour ça, mais c'était qui ce mec bizarre dont elle parlait depuis des mois. Elle disait, même si tu sais pas danser, on pourrait tourner un peu. Si tu marches sur mes pieds, je disparais sous tes yeux. C'était beau, tous ces bateaux, ces feux de détresse allumés. Les premiers curieux sur la grève avec le jour qui se levait. On l'a cherché le nez en l'air, bien sûr qu'on y croyait encore. Un bouquet
ma pauvre Lucette MPL avec leur titre, elle disait, un superbe groupe à suivre, MPL sur Calade.
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
Et tout de suite, il est l'heure de notre rubrique quotidienne, mais la 11e avec notre ami Georges Botton. Bonjour Georges.
Bonjour Mathieu.
Comment vas-tu?
Ça va et toi? Tu as passé un bon week-end?
Oui, oui, un très beau week-end. J'ai profité du soleil, ça fait du bien.
T'es tout bronzé donc, c'est bien.
C'est ça. De quel morceau vas-tu nous parler aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, bonjour amis auditeurs, bonjour amis auditrices. Je vous ai sorti un chanteur de blues qui a été un des fondateurs du blues, c'est-à-dire c'est du très vieux style, c'est génial, et je vais me permettre de vous lire un peu sa biographie parce que c'est important, c'est un des fondateurs. Alors d'abord le morceau s'appelle Prayer of Death, prière de la mort, c'est pas gay, je suis désolé. L'interprète donc s'appelle Charley Patton. L'enregistrement du morceau a été réalisé le 14 juin 1929 à Richmond dans l'Indiana, et à ce moment Charley Patton avait 42 ans, c'est-à-dire 5 ans avant son décès. Le Charley Patton, donc, il est né en 1887 dans le Mississippi, décédé en 1934 dans le Mississippi toujours, il a vécu 47 ans, c'était un guitariste et un chanteur. À 14 ans, il a appris la guitare et il animait des farandoles avec ses petits copains et petites copines. À 21 ans, de 1921, pardon, à 1934, il avait environ 35 ans. Il a tourné pour jouer dans le Mississippi. Il a ensuite été remarqué par Monsieur Speyer, qui était un rabatteur pour les maisons de disques. Et Patton a donc enregistré pour Paramount. Et il a eu un grand succès avec Poday Blues et High Water Everywhere. En 1929, il a rencontré la chanteuse Bertha Lee, il s'est marié avec elle, et ils ont travaillé très souvent ensemble. En 1934, l'agent recruteur M. Calloway lui a fait réaliser une session d'enregistrement chez Vocalion. Et puis alors après, bien ce pauvre Charley Patton a été hospitalisé pour troubles cardiaques à Indianola, dans le Mississippi toujours, où il est décédé en 1934, c'est-à-dire à l'âge de 47 ans. Alors, sur le plan professionnel, si on peut dire, et artistique, Charley Patton occupe une place prépondérante. Ça a été un des premiers bluesmen à avoir enregistré en 1929. Il avait un répertoire varié et très vaste. Il faisait aussi bien du ragtime que du chant folklorique, que de la musique européenne. Pardon. Il a un style de guitare qui est brillant et inventif. Il a un grand sens du rythme. Et il jouait d'ailleurs parfois la guitare posée sur ses genoux. Bon, ça c'est un petit détail. Il a des phrases, alors ça vous le verrez tout de suite dans le chant, il a des phrases qui sont hachées, qui sont très dures. C'est tout à fait le style du blues du Delta ou du blues du Texas, pardon, je cherchais le mot. Il paraît-il que c'était un individu violent, buveur, coureur de jupons, bagarreur, illettré. Et dans les grandes plantations où travaillaient ses parents, d'ailleurs, il avait un peu la réputation d'être, comme on dit vulgairement, un semeur de merde. Voilà. Enfin, quand même, pour terminer sur une note plus positive, le grand ethnomusicologue Alan Lomax disait de Charley Patton: Patton a reconstitué l'art du griot africain, vous savez, c'est Edouard qui se promenait dans la campagne africaine avec leur guitare ou un petit instrument, non c'était pas des guitares, c'était des petits instruments, genre banjo. Donc Patton faisait partie des bluesmen et qui était abîmé par la pauvreté, c'est toujours ce que dit Alan Lomax. Et il est considéré par beaucoup de critiques comme un des fondateurs du blues. C'est une des grandes figures du blues du Delta. Alors voici donc maintenant, je vous trêve de discours, je vous souhaite une bonne audition avec Prayer of Death de Charlie Patton et je vous dis, chers amis auditeurs, chères amis auditrices, à demain. Et Mathieu, je te dis à demain.
À demain, Georges, merci beaucoup. On va donc écouter Prayer of Death de Charlie Patton, un morceau de 1929, il a presque un siècle ce morceau.
Found him. On the bill. Him told the bill again. They would sing a little song like this.
He gonna stand, he gonna sing. You are never, never seen me. He gonna stand, he gonna sing. I'll meet you on the house. I got it away.
Stop wind frown, I hear him call him Lord. Oh Lord, oh Lordy.
Prayer of Death, un morceau de 1929 de Charlie Patton. C'était le choix musical de Georges Botton sur Calade.
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
Et oui, nous sommes ensemble sur Calade encore jusqu'à 14h et nous avons rendez-vous avec le dernier invité de cette émission, c'est Julien Dupéré, directeur de l'Oasis à Glaizé. Bonjour Julien.
Bonjour et merci de nous donner la parole.
Et bah c'est un plaisir. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment s'est passée cette journée de reprise pour vous?
Et bah c'est effectivement une journée de reprise qui est assez intense, on va dire. Pour faire suite à une période qu'il était moins, et on va pouvoir en parler, mais voilà, la journée se passe bien pour l'instant.
Ouais, il faut reprendre le rythme. Peut-être commencer cette interview par rappeler ce qu'est l'Oasis et quelles sont vos nombreuses activités. Vous êtes une association?
Donc effectivement, l'Oasis est une association loi 1901, dont l'objet est d'accueillir des personnes sans domicile ou en difficulté d'insertion. À savoir qu'il y a 34 à 35 résidents en permanence dans les murs. Et pour ça, il y a des activités, toutes les personnes qui sont accueillies, hébergées, ont bien sûr un accompagnement social, mais sont aussi en activité sur le site. Parce qu'on a un organisme d'accueil communautaire, donc c'est des activités qui sont dites communautaires. Et les plus connues pour l'extérieur sont l'exploitation agricole, avec la production de fromage fermier, et une recyclerie, c'est-à-dire un lieu de dépôt d'objets qui vont être valorisés, revendus ou recyclés.
Ça fait beaucoup d'activités. Moi, j'étais impressionné en allant sur votre site internet de voir tout ce que vous faisiez. Ça demande la présence de combien de personnes pour faire
alors,
fonctionner.
Alors, l'Oasis, c'est un gros écosystème humain, oui. Où il y a une complémentarité entre des gens très différents. Donc, il y a déjà nos communautaires, les résidents, qui sont tous en activité sur le site. Il y a bien sûr une équipe de bénévoles qui est assez conséquente, environ 60 personnes. Et puis, il y a 8 salariés qui sont également présents pour assurer l'encadrement des activités. Viennent à ça s'ajouter des stagiaires, des personnes condamnées au travail d'intérêt général, etc. Donc il y a un écosystème humain qui fait que mener ces actions, c'est possible parce qu'on est plusieurs et on est nombreux en l'occurrence.
Et il y a également l'Oasis, c'est aussi un lieu qu'on retrouve à Glaizé, 526 route de Chantegrier, pour donner l'adresse. Oui. C'est avec des beaux espaces verts et des grands bâtiments.
Oui, alors une particularité de l'association, c'est d'être très ouverte sur son environnement. Effectivement, alors il y a des personnes qui viennent pour déposer des objets dont ils n'ont plus l'utilité à l'Oasis, d'autres qui viennent acheter du fromage, d'autres qui viennent simplement se balader, profiter de pouvoir voir les animaux, etc. Donc c'est aussi un lieu de lien social qui a une dimension très locale, hein, mais qui est ancré sur son territoire. Et c'est important pour nous, en tout cas, que ce lieu reste ouvert. Ce qui n'était pas forcément le cas pendant les 2 mois qu'on vient de vivre.
Et oui, ça a dû être compliqué. Alors justement, la vie en communauté, parce que même si c'était pas ouvert au public, il y a du monde qui vit dans ces lieux. Comment ça s'est passé ?
Eh bien, ça s'est passé. C'est une situation qui était complètement inédite, donc on savait pas trop à quoi s'attendre. Et effectivement, on a confiné les lieux, c'est-à-dire qu'on les a fermés à tout public extérieur. Que ça soit pour donner, pour acheter, pour se promener. Et du coup, sont restés les résidents et des salariés qui étaient présents, sur la partie hébergement en tout cas, et l'accompagnement des personnes. C'est une situation qui s'est bien déroulée malgré tout. C'est-à-dire qu'on a passé 2 mois entre nous, avec des règles d'hygiène, des précautions qu'on ne comprend pas forcément d'habitude d'ailleurs, avec un climat plutôt paisible dans le groupe malgré tout. Et moi, j'en profite pour saluer les efforts assez admirables qu'ont fait tous les communautaires pour que le vivre ensemble il soit possible pendant ces 2 mois, dans une période qui était absolument pas facile pour eux. Parce que c'est des gens en fragilité et que cet enfermement entre guillemets il est évidemment pas facile à vivre.
Et oui, ça demande vous l'avez dit, des efforts de tous et là les efforts ont été au rendez-vous et donc ça s'est passé plutôt un bilan positif alors de cette période.
Le bilan est positif, les efforts ont été au rendez-vous et ça nous donne à voir que toutes ces personnes qu'on accueille avec des fragilités, elles ont aussi beaucoup de capacités et puis en tout cas la force de faire collectivement pour que les choses se passent bien. Donc c'est à saluer.
Alors vous reprenez aujourd'hui après ces deux mois de fermeture, vous réouvrez vos portes déjà à l'accueil des dons. Et puis il me semble que lundi dernier vous avez réouvert pour la vente de fromage.
Voilà, alors on n'a pas stoppé totalement les activités pendant la période du confinement. On avait poursuivi notamment l'activité agricole. Qui peut pas être mis en stand-by en tout cas, avec des modalités de vente de fromage qui avaient été ajustées et sous forme de drive, de commandes préalables, etc. On reprend depuis lundi 11 mai une activité progressivement normale, le normal étant pas totalement vrai, tant les mesures de précaution sont nombreuses. Mais la fromagerie a réouvert lundi 11 mai, donc elle est ouverte comme à l'habitude du lundi au samedi, de 10h15 à midi et de 13h30 à 17h. On remercie d'ailleurs tous ceux qui sont au rendez-vous et qui étaient au rendez-vous pendant le confinement, mais dès la réouverture aussi. Mmh. Et puis sur la côté recyclerie, les activités reprennent progressivement à partir d'aujourd'hui, donc avec des déposes d'objets qui sont à nouveau possibles les lundis, mardis et jeudis, et un magasin qui réouvre le mercredi et le samedi. dans des conditions un peu restreintes, c'est-à-dire qu'on voilà, on a moins de permanence pour accueillir les dons, on va avoir des amplitudes horaires plus larges pour le magasin, et puis tout un tas de mesures barrières, puisque on n'a pas eu de malade à l'Oasis pendant 2 mois de confinement, et notre grand enjeu aujourd'hui, c'est de réouvrir au public extérieur sans que la situation sanitaire se dégrade. Voilà.
Sans se mettre en danger pour les personnes qui y vivent.
Exactement.
Comment est-ce qu'on crée un protocole sanitaire quand on accueille du monde? Où est-ce que vous trouvez les sources d'informations pour connaître les méthodes? Parce qu'on n'est pas forcément expert en la matière. Alors comment est-ce que vous avez mis en place ce protocole?
Alors je confirme qu'il n'y avait aucun expert parmi nous. Alors nous, on reçoit à la fois des consignes qui sont des grandes orientations gouvernementales liées notamment à l'ouverture des commerces, mais on a aussi, avec les services de l'État, de la préfecture côté cohésion sociale, du fait de l'activité hébergement, un certain nombre de consignes. En fait, on s'est mis à plusieurs et on a, à partir de l'expérience qu'on a de l'Oasis, réfléchi avec bon sens, en prenant en compte ces mesures-là, réfléchi à comment on pouvait réouvrir en protégeant le plus possible les acteurs à l'Oasis. Ce qui est un exercice compliqué et qui va demander peut-être d'être réajusté en fonction de comment va se dérouler la situation sur le terrain. Aujourd'hui, la question des apports qui a repris aujourd'hui ne pose pas de difficultés. Les gens sont patients, ils sont respectueux du fonctionnement qui a été posé. Voilà, on a un autre rendez-vous mercredi avec la réouverture du magasin qui va aussi être une affaire complexe.
Ouais.
Mais on saura s'ajuster de toute façon au fur et à mesure aux besoins.
Et depuis ce matin, les apports, comment ça se passe? C'est une voiture à la fois? Quelles sont les règles mises en place?
Alors les règles, effectivement une voiture à la fois, on demande aux personnes de ne pas pénétrer dans notre zone de tri, c'est nous qui déchargeons les véhicules. Ce qu'on peut noter, c'est que c'est une activité qui est très intense depuis ce matin 8h30. Oui. À midi, on avait relevé 2 tonnes de textiles déjà arrivées là, dans la matinée.
En une matinée.
Donc ça vous donne une idée de l'ampleur. Alors le textile, parce que beaucoup de bornes de collecte en ville des bornes ne sont plus ramassées. Et puis je crois que la période du confinement, enfin ça c'est partagé par tous, mais a permis à beaucoup de gens de faire du tri, un grand ménage, un ménage de printemps, et qu'on s'attend à des apports de marchandises qui sont nombreux.
D'accord, ça fait beaucoup de travail, mais c'est une bonne nouvelle pour l'Oasis. Mais j'imagine que ouais, vous avez beaucoup de visites depuis ce matin.
Oui, un flux continu de véhicules, voilà, mais les choses se passent bien. Après, la difficulté, c'est qu'on a restreint une voiture à la fois pour avoir le temps de manipuler les choses correctement, voilà, pour pas se faire submerger non plus, et pour pas que les communautés portent la pression de... Effectivement, tout le monde veut vider sa voiture, mais voilà, il faut que les communautaires reprennent à un rythme qui est soutenable aussi. Voilà, on demande à tout le monde de bien vouloir s'y adapter.
Oui, on parlait tout à l'heure de l'effort qu'il faut chacun faire pour vivre ensemble. J'imagine que là, avec toutes les règles, la patience qu'il faut pour attendre que ce soit son tour, ça peut être aussi compliqué. Ça se passe bien depuis ce matin? Les gens jouent le jeu?
Oui, les gens jouent le jeu. Ils jouent le jeu, ils voient le monde qu'il y a devant eux, qu'il y a derrière eux, la quantité de marchandises qui est déposée, et je crois qu'ils sont conscients que la tâche est ardue.
Voilà. Et en même temps, c'est fait pour une action solidaire et humaine, et ça vaut le coup d'être patient pour donner à l'Oasis.
Effectivement, ces gens qui déposent, on les appelle des donateurs, et on n'est pas une déchetterie, on est une recyclerie, et c'est tout l'enjeu, c'est de pouvoir contribuer d'une manière simple au projet de l'Oasis. Tous les produits de nos recettes servent à financer l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes. C'est l'objet de l'association, et voilà, c'est le fonctionnement qu'on essaye d'assumer au quotidien.
Et donc ces dons, on pourra les retrouver en boutique d'ici quelques jours. Alors ça réouvre mercredi, la boutique.
Voilà, donc la boutique réouvre mercredi avec des horaires qui seront adaptés pendant un temps, donc qui seront 9h midi, 14h-18h, donc une amplitude plus large que d'habitude. avec là aussi des règles en termes d'affluence, donc tout le monde ne pourra pas rentrer en même temps dans le magasin. Il y aura un filtre qui se fera pour qu'on reste sur un nombre de personnes acceptable au regard de la surface des locaux. Le port du masque sera obligatoire, et puis tout un tas d'autres recommandations qui feront l'objet d'un affichage, qui font l'objet d'ailleurs déjà d'un affichage sur le site.
Très bien. Eh ben, on vous souhaite une bonne reprise et puis une bonne continuation avec l'Oasis à Glaizé. On peut rappeler quand même qu'on retrouve toutes les informations nécessaires sur votre site internet.
Tout à fait.
Et puis par téléphone.
Oui, par téléphone.
On donne le numéro de l'Oasis.
Allez. On rappelle donc le site internet www.association-oasis.com. Et le téléphone 04 74 65 10 79.
Parfait. Bon, ben, merci beaucoup, Julien Dupéret, de nous avoir parlé de l'Oasis et de votre actualité sur notre antenne.
Très bien, merci à vous. Bonne journée à tous et à bientôt à l'Oasis.
Allez, on vous souhaite une bonne fin de journée à Julien Dupéret. On va continuer à faire une petite pause musicale. Il va bientôt être 14h, l'heure de se quitter. Mais d'abord, on écoute Camélia Jordana avec Facile.
Je me laisse, je fais facile, je chante, c'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante, quand de haut en bas s'attendre, moi les yeux fermés j'avance, tout en inconscience quand j'y pense. Toi, tu crois que je brille, que je monte, ouvre tes yeux. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. C'est ok, je suis fragile, presque sans défense. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Quand dedans ça papillonne, que ça s'agite, que ça cogne, je me défile et je m'étonne. Toi, tu crois que je brille, que je monte.
Facile de Camélia Jordana sur Calade. Voilà, c'est la fin de cette émission Ensemble sur Calade que vous pourrez réécouter sur notre site internet www.radio-calade.fr. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau moment à passer ensemble de 12h à 14h. Je pense qu'on aurait encore passé un bon moment. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos intervenants. À demain dans Ensemble sur Calade. Ciao, ciao.
Calade, 14h.